Radio G. www.radio-g.fr. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio G qui nous écoutent donc sur le 101.5 FM ou sur le www.radio-g.fr. Alors, vous êtes là aujourd'hui avec nous pour notre dernière rubrique de À l'assaut de l'année 2019. Pour cette rubrique, nous avons invité aujourd'hui, alors, comment dire, un Sherlock Holmes de la boisson, monsieur Marc Massot, qui va se présenter. Et puis, je salue Jean, qui nous assiste toujours pour la technique de cette émission. Alors bonjour monsieur Massot.
Bonjour.
Bonjour. Vous représentez aujourd'hui donc l'association du musée des boissons et de la sommellerie. Alors, je crois que ce musée est unique en France, mais je vous laisse nous en parler avec toute la passion que j'ai pu découvrir sur vous voilà tout au long de mes recherches.
Alors oui, c'est un musée où on commence même par raconter l'histoire du biberon pour dire qu'on commence vraiment à la base. Et puis après, on parle aussi bien de l'eau, des jus de fruits, des cafés, chocolat, vin, bière, whisky, et, enfin toutes les boissons. Avec aussi bien leur histoire sur la fabrication, leurs évolutions, mais aussi tous les objets qui tournent autour, donc pour certains les bouteilles, des verres, des tasses, cuillères, mais aussi toutes les évolutions dues aussi aux entreprises de production.
D'accord, donc en fait c'est une culture du patrimoine finalement local et français.
Et français, puisque notre but c'est de sauvegarder tout le patrimoine sur l'ensemble des boissons françaises.
D'accord. Comment est née cette idée de ce musée ?
Alors, c'est né suite à une demande un petit peu curieuse, puisque j'intervenais en région parisienne pour faire des cours de dégustation dans une galerie marchande pendant la Foire au Vin.
Oui, puisque vous êtes sommelier.
Parce que je suis sommelier de métier. Oui. Et on m'avait demandé de faire des cours de dégustation le samedi pour les adultes. Ça leur a tellement plu qu'ils m'ont dit l'année prochaine, ça serait bien aussi de faire un cours de dégustation pour les enfants.
Une dégustation de
vin pour les enfants, voilà, c'était la demande. Et donc je leur ai dit qu'effectivement, ça allait être quand même un peu compliqué de faire goûter du vin à des enfants et que je pouvais éventuellement présenter le métier de sommelier via des objets. Donc on a eu une année de préparation, etc. Et on s'est dit, ça serait pas mal de raconter l'histoire, de savoir comment un verre a été créé, comment une carafe a été créée, de quand ça date, etc. Et les organisateurs ont décidé d'appeler cette animation le musée de la sommellerie.
D'accord.
Et donc, ça a tellement bien marché, puisque c'était la première fois qu'on voyait une présentation du métier de sommelier via des objets. Et on a fait ça, des expositions, après, pendant plusieurs années, puisqu'on a commencé en 2004, ça s'est passé en 2004, la première exposition. Et après, le musée s'est installé en 2011 à Saint-Germain-sur-Loire.
Mmh. Alors, je crois que l'originalité de sa localisation, c'est qu'elle est très, très proche de chez vous.
Effectivement, on avait créé entre-temps une association, et puis puisqu'on faisait que des animations à droite, à gauche, et beaucoup forcément dans le Maine-et-Loire, puisque je suis natif d'Angers. Mmh. Et sur un Médine Angers, la présidente de l'association et moi-même, on avait vu donc les élus qui faisaient leur tour comme sur chaque salon, et on leur a posé la question de savoir comment on pouvait créer un musée fixe, puisque les gens, à force de nous voir, à chaque fois on avait cette question qui devenait récurrente, parce qu'ils trouvaient toutes nos animations sympathiques. Et les élus nous ont gentiment dit, débrouillez-vous, et puis si on voit que ça marche, on viendra vous aider. Donc on s'est débrouillé en trouvant un bâtiment, une maison, répondant aussi bien aux normes de sécurité, aux normes d'assurance, parce que les assureurs aussi
de
mettre des contraintes, voilà. Et puis que ça soit un coût comme toute association qui à cette époque-là n'avait aucune subvention, donc on devait vraiment se débrouiller avec les moyens du bord. Donc c'est dans une maison particulière, dans un garage, qu'on a commencé.
D'accord. Et dans ce garage, donc, on y trouve des milliers d'objets.
Ah, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, les gens y passent minimum 2 heures. Le plus grand, pour l'instant, le record, c'est 4h30 de visite, pour dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir et puis à apprendre en même temps. Donc, on a vraiment dans ce milieu-là tout le Maine-et-Loire qui est représenté.
Donc, à la fois sur la fabrication donc, des objets, sur leur conditionnement, ce que vous disiez.
Voilà, on a tout ce qui est fabrication même des boissons, puisqu'on a des vieux pressoirs, des vieilles machines pour la limonade, de l'eau gazeuse. Enfin, voilà, il y a des alambics. Donc, voilà, on touche vraiment beaucoup de professions. Donc sur la fabrication, sur le conditionnement, puisqu'on a beaucoup de bouteilles, on montre le bouchonnage, l'étiquetage. Donc voilà, plus tout ce qui est service, puisqu'on a des verres, des tasses, des cuillères. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir à ce niveau-là.
Donc l'art de la table dans sa grande complexité.
Voilà.
D'accord. Alors. Comment vous trouvez justement tous ces trésors finalement?
Alors, c'est beaucoup de recherches dans des vides-greniers, chez des brocanteurs, des antiquaires. Et puis on commence à avoir depuis 2 ans des dons des bénévoles, puisque l'association fait que de grossir. Cette année, on a dépassé même les 200 adhérents. Donc, sachant qu'on a des adhérents sur toute la France. Et donc, on commence à avoir des dons, des gens qui déménagent des maisons de grands-parents, qui envoient des vieilles bouteilles, ou des gens qui consomment même des bouteilles actuelles, puisque on conserve même les bouteilles d'aujourd'hui, hein, puisque elles vont vieillir, comme tout.
Oui, parce que ça va du biberon, mais aussi jusqu'aux innovations, finalement.
Oui, puisque les innovations d'aujourd'hui, dans 10 ans, elles seront déjà vieillottes, et puis dans 50 ans, voilà. Donc, on commence déjà à faire le plein de bouteilles, entre guillemets, nouvelles, mais qui viendront anciennes par la suite. On récolte tout, quoi. Et puis on fait en même temps la promotion même des artisans, des brasseurs, des vignerons, distillateurs d'aujourd'hui.
J'avais vu, pardon, à travers ce musée, on peut y retrouver aussi donc la culture des entreprises qui ont fait comme l'entreprise Copa, hein, d'ailleurs.
Notre but en même temps, c'est dans cette sauvegarde de tout ce patrimoine, c'est de rechercher en même temps tout ce qui est objet historique, enfin sur les entreprises. Donc, on a déjà sur les brasseurs de Maine-et-Loire, rien que pour le Maine-et-Loire, quasiment tout en référence depuis la Révolution française. Donc, par exemple, au Grenier Saint-Jean, il faut savoir que dans le temps, dans le bas du Grenier Saint-Jean, il y avait un brasseur distillateur dans le temps. On montre toute l'évolution de la commune d'Angers, puisque là, le Maine servait de moyen de transport avant l'arrivée des voitures. Et donc, beaucoup d'entreprises étaient situées sur les bords de Maine. On montre aussi au musée sur l'évolution d'Angers que dans le temps, avant que ça soit, il y a le boulevard Hérault, c'était un port Hérault. Et qu'il y avait toute une zone marchande dans le quartier Saint-Serge. On montre aussi toutes ces évolutions-là du paysage. Et on parle effectivement de tous les entrepreneurs, ce qu'ils ont apporté. Voilà, comme des choses connues aujourd'hui, mais la distillerie Giffard, qui à l'origine c'était un pharmacien.
Oui.
Qui, suite à une demande d'un voisin qui était restaurateur, ont mis en place la menthe pastille pour rafraîchir les Angevins en 1885, parce qu'il a fait à cette époque-là déjà une canicule.
D'accord, il a bien fait.
Donc toutes ces évolutions d'entreprise amènent aussi les évolutions des boissons.
D'accord, donc finalement, oui, à travers vous, ça permet de sauvegarder effectivement le patrimoine local, ce qu'on disait tout à l'heure, et de redécouvrir les marques, les entreprises. Alors, pour ce faire, pour conserver toute cette mémoire, je crois que vous avez un centre d'archives ou une bibliothèque.
On a une bibliothèque, notre centre d'archives où on a beaucoup de documents. Nous-mêmes, on fait beaucoup de recherches, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont disparu dans le sens, dans tous les sens du terme, ou même quand on va dans des archives de départements ou même des municipalités qui n'ont plus du tout de traces. Et ben nous, on est régulièrement à la recherche, aussi bien dans des bouquins que sur Internet, etc., pour retrouver des traces même de vieilles factures d'établissements, pour montrer qu'ils existaient, le type de boissons qu'ils produisaient, et puis bah, qu'on peut développer, savoir comment ils fonctionnaient, le nombre d'employés qu'il y avait, leur système de production. Voilà, on essaye de sauvegarder tout, enfin de chercher de sauvegarder tout ce travail-là.
Et vous faites ça sur informatique ou c'est...
On a une partie informatique, on a une partie papier, on a un peu de tout. Tout moyen est bon pour la sauvegarde.
D'accord. Sinon, donc, vous avez des animations aussi au sein de ce musée. Donc, j'avais pu voir la fabrication également de poissons.
Alors, on est vraiment un musée vivant. Dans le vrai sens du terme, puisque on fait pas mal d'animations pour montrer comment se passait la production. Il y a encore quelques jours, on était dans une école pour montrer comment on faisait le pressage du jus de pomme à l'ancienne, hein, sans électricité, avec le broyeur, puisqu'on a, voilà, pour faire un jus de pomme, il faut savoir qu'il faut broyer la pomme avant de passer dans le pressoir. Donc on a le broyeur à l'ancienne, et après on le passe dans le pressoir où les gens ont la gentillesse de tourner la manivelle pour faire sortir le jus. Oui. Et puis regoûter vraiment le vrai jus de pomme, non filtré, non pasteurisé,
naturel.
Et on a plein de démonstrations. On fait même un peu de gravure sur verre pour les enfants, pour qu'ils se réunissent, enfin qu'ils voient ça, ils peuvent repartir avec leur verre gravé qu'ils ont eux-mêmes travaillé. On fait des démonstrations pour montrer comment fonctionne un alambic. C'est aussi un petit peu scientifique. D'ailleurs, cette année, on a participé pour la première fois à la fête de la science, parce que bah, justement, entre autres, avec l'alambic, de montrer que la vapeur d'alcool n'est pas à la même température que l'eau. Donc, montrer tout ça aux enfants, enfin, même plus grands, parce qu'il y a des plus grands qui ne savent pas non plus.
Non plus.
Donc, voilà, on a tout ce travail de faire aussi que ça soit un musée très, très vivant.
D'accord. Vous faites des cours de dégustation aussi, mais je crois qu'il faut être membre pour.
Alors, où les gens deviennent, de toute façon, la cotisation est très peu, très, très faible exprès. Les gens peuvent venir faire des cours de dégustation, aussi bien pour les enfants, puisqu'on en fait aussi pour les enfants sur les jus de fruits, les sodas, pour les adultes sur la bière, le vin, le whisky, le rhum, et puis quand on a d'autres demandes, sur d'autres boissons, on fait aussi.
Oui. Donc, vous êtes amené en fait à parler de vous et puis de votre passion à travers le territoire, parce que vous participez quand même à des conférences, des expositions.
Voilà, c'est bien de conserver tout le patrimoine, mais notre but c'est aussi de le retransmettre, hein, c'est pas de le garder pour nous. Donc on le fait, voilà, c'est pour ça qu'on le fait vivre, qu'on fait beaucoup d'animations, d'expositions, qu'on parle aussi bien de l'évolution, comme dernièrement sur les brasseurs de la région, puisque la bière dans le Maine-et-Loire, c'est pas tout nouveau, hein. Faut savoir que les fondateurs d'Angers, les Andécaves, ou Andécaves en fonction des historiens, étaient un peuple de brasseurs. Donc on fabrique depuis 2500 ans de la bière. On fabriquait de la bière avant du vin dans la région.
Ici, ah
oui. Et oui. Et avec la culture qui était plus du blé à cette époque-là.
Exact, oui.
Donc voilà, on fait pas mal effectivement d'interventions, de conférences pour parler de tout ce trésor. Alors là, on parle, enfin, forcément beaucoup d'Angers, mais je rappelle qu'on est le seul musée des boissons en France, et donc on intervient dans d'autres régions en France pour marquer aussi leur patrimoine, toute leur histoire à ce niveau-là.
Alors, il y avait une anecdote que vous pourriez nous citer, mais c'est vrai que j'avais lu, vous aviez été... on était venu vous demander en tant qu'expert des objets, ne serait-ce que pour participer à un film qui avait eu lieu en 2005.
Oui. Ah oui, avec effectivement, avec Michel Serrault qui était en acteur, on a eu la chance d'aller voir les plateaux de tournage sur le site réel de tournage et puis dans les studios. Et effectivement, on est aussi sollicité sur un point de vue historique. Donc là, c'était pour un film. On est aussi demandé des fois aussi par des archéologues. D'ailleurs, il y a une bouteille qui est arrivée au musée suite à des fouilles archéologiques, puisqu'il y a un groupe qui ont réouvert dans les Alpes les sentiers où les soldats français attendaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Les soldats, pour être sûrs de ne pas se faire contaminer au niveau de l'eau, avaient fait leurs réserves avec des bouteilles d'Evian. Ils avaient retrouvé 6 bouteilles intactes. Malheureusement, les gros groupes français ne répondent quasiment jamais aux sollicitations d'historiens. D'une part, parce que la plupart du temps, les gros groupes n'ont pas de temps à perdre, entre guillemets. Et surtout que le côté historique, c'est pas leur intérêt. Leur intérêt, c'est plus la production. Donc, ils nous ont contactés, on les a renseignés. Et puis, ça a prouvé que la bouteille était bien de cette époque-là.
D'accord.
Et il y a quelques années, il y a un lieutenant-colonel qui est venu nous amener l'une des 6 bouteilles pour le musée, pour nous remercier des informations.
Ah ouais, ça a dû vous faire plaisir.
Oui. Ah oui, donc on travaille aussi avec des archéologues, des historiens.
Une belle reconnaissance.
Voilà. D'ailleurs, voilà, c'est pour ça que le musée, on a aussi beaucoup d'écrivains qui viennent nous solliciter, aussi bien pour les archives, etc. Donc on est un musée, je rappelle, vraiment très très vivant.
D'accord. Alors justement, vous avez le projet de l'étendre.
Oui, parce que actuellement dans un garage, c'est petit.
On s'en doute.
Même si les gens trouvent le trouvent vraiment très intéressant. Là, en ce moment, on est avec la commune de Verrières en Anjou. Où notre but, c'est vraiment de mettre tout ce qu'on a mis en petit, en grand, donc d'avoir l'exposition de Maine-et-Loire, bien entendu, mais essayer d'avoir Pays de la Loire, voire même Bretagne, d'avoir une autre salle de présentation pour les autres régions françaises, qu'on les présente aussi, d'avoir le centre de documentation avec la bibliothèque qui soit un accès à toutes les personnes. Et en même temps d'avoir un bar à dégustation, une salle de courte dégustation, de la restauration, comme ça je reviendrai sur mon métier premier de sommelier.
Voilà.
Et puis un lieu aussi de démonstration avec le pressoir, les alambics, etc., de remontrer aux gens comment fonctionnait, même pour fabrication de la limonade et tout.
Ah, très bien, super projet, j'espère que ça va fonctionner pour vous. On peut vous rendre visite. Alors je sais qu'il y a une animation à l'occasion de Noël.
Effectivement, en ce moment, petits et grands peuvent venir tous les soirs de 17h30 à 20h30. On a fait pas mal de décors, d'illuminations. Et il y a même, cette année, les bénévoles de l'association ont fait un traîneau où les gens peuvent se promener en traîneau. Donc on fait pas mal d'animations toute l'année. Et là, pour Noël, la maison est illuminée.
D'accord. De quelle heure à quelle heure
17h30 à 20h30, tous les jours.
D'accord. À quelle adresse? Alors, je sais que vous ouvrez assez tard le soir
pour le
musée.
Alors, l'adresse, c'est route des Poncés à Saint-James-sur-Loire. Et le musée est ouvert tous les jours de 8h à 22h ou sur réservation. Les gens peuvent venir. Ou autrement, en journée, il y a des horaires de permanence où là, les gens peuvent venir quand ils veulent.
D'accord. Bon, pour des tarifs minimum. Est-ce que vous voulez lancer un appel aux dons, éventuellement, ou à toute personne, entreprise, qui voudrait vous envoyer des...
Nous, on est toujours preneurs, comme je pense que chaque association. effectivement, même à la recherche de bénévoles aussi. Chacun peut y trouver. S'il y a des personnes qui veulent faire des recherches ou directement intervenir sur l'accueil ou en fonction d'un domaine précis, s'il y en a qui sont férus de bière, puisque aujourd'hui il y a un nombre de brasseurs qui explose en France, donc s'il y en a qui veulent faire des recherches historiques sur la bière et parler de la bière, etc., ou faire des newsletters, etc., effectivement on recherche aussi pas mal de bénévoles.
D'accord, écoutez, l'appel est lancé. Eh bien, écoutez, c'était notre dernière émission de l'année. Je vous remercie, Monsieur Massot, d'être venu présenter le musée des boissons et de la sommellerie. On espère vous y retrouver dans peu de temps. Et puis, je dis je souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année à toutes nos auditrices et auditeurs de Radio G. Nous vous retrouvons en 2020 désormais. Voilà, très bon week-end à vous. À bientôt. Au revoir.
Solidarité, environnement, humanité, partage, culture, art, découverte, science, musique, territoire, entraide, bénévolat, cohésion, santé, sport, rencontre, à l'assaut.
À l'assaut.
À l'assaut.
À l'assaut.
Un vendredi sur deux à 13h sur le 101.5 FM de Radio G, retrouvez à l'assaut la chronique dédiée aux associations.
Radio G.